Au-delà de ça, il y a une vision pour moi anthropologique de l'analogie. L'être humain est une machine à analogie. Le langage joue un rôle, c'est le troisième point, le langage joue un rôle très important dans l'analogie, au sens que là, il y en a plein d'exemples dans le livre de Hofstadter et Sander. La lexicalisation, c'est-à-dire en fait, on vit une expérience, et quand on arrive, parvient à faire passer l'expérience au langage, on construit une avancée dans l'expérience. L'expérience, c'est ce qu'elle est, et elle a la densité qu'elle a parce qu'elle a le langage, parce qu'elle est prise dans le langage et parce qu'elle est lexicalisée. Donc, ce qui veut dire, si on est dans une telle perspective, ça veut dire qu'il y a une nécessité du travail d'analogie, et que cette nécessité, c'est toujours, je cite là le livre de Hofstadter et Sander, l'art de la recherche d'un analogue approprié. Donc, il y a l'idée qu'il y a une sorte d'analogone, on va construire des objets d'analogie, et dans l'activité humaine, et que on va être pertinent si on construit les bonnes analogies. Dernier point de cette diapo, il y a l'idée que l'analogie, elle est très étroitement liée à l'action et à l'inférence. C'est-à-dire qu'en fait, j'y reviendrai sans doute au moins dans la discussion, l'analogie, finalement, c'est la première machine à inférence. Sans se préoccuper de savoir si ce sont des inférences pertinentes ou pas. C'est la première machine à inférence dans la conception que je. Là, c'est Hofstadter et Sander, lu par moi-même. Hein. Après, peut-être que les auteurs peuvent se reconnaître ou pas. Enfin, c'est ce que j'essaie d'en faire. Alors, un autre point qui me paraît vraiment central, c'est que Wittgenstein est cité deux fois dans le livre, mais je pense que le livre a un air de famille profond avec la conception du sens de l'activité humaine chez Wittgenstein. Par exemple, pour moi, le livre de Hofstadter et Sander, c'est un livre qui nous montre ce que, en fait, l'existence humaine, ce sont des voir comme. C'est-à-dire, on voit les choses comme quelque chose. Hein, la fameuse analogie, enfin, la fameuse apologue du canard-lapin chez Wittgenstein, vous savez, le canard qu'on peut voir comme un lapin ou comme un canard, ou comme un lapin ou comme un canard, qui est tiré de la Gestalt. Donc, c'est cette idée que il y a des voir comme, il y a des changements de voir comme, et il y a des airs de famille. Il n'y a pas de règles qui nous permettent de comprendre les proximités dans les éléments du monde, il y a des airs de famille. Je vais un peu revenir là-dessus. Donc, finalement, l'analogie, c'est ce qui construit des styles de pensée. Alors, pour moi, il y a un autre auteur qui est sous-jacent, c'est Fleck. Mais Fleck, on va le retrouver par Kuhn. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, et je cite là assez longuement le texte de Kuhn, parce que de Hofstadter et Sander, parce que je voudrais y revenir. Ça sera un fil rouge pour moi. Ils nous disent donc, l'intelligence, c'est l'art d'aller droit au but. Face à une situation nouvelle, l'art de mettre le doigt sur un précédent stocké en mémoire. Ça veut dire, ni plus ni moins, la capacité d'isoler le noyau d'une situation nouvelle. Et donc, cela n'est rien d'autre, à son tour, que la capacité de trouver des analogies fortes et utiles. Alors, ça m'amène à ma deuxième partie. Ma deuxième partie, en gros, la logique générale de l'exposé, c'est la suivante. L'analogie, c'est fondamental. On trouve. C'est trop fondamental dans l'action humaine, toute action humaine. On trouve quelqu'un qui a utilisé une telle vision du monde, sans évidemment citer Hofstadter et Sander, puisque c'était un peu avant, c'est Kuhn. Et Kuhn nous amène à construire l'idée que le sens se construit par référence à des exemples exemplaires. Vous voyez, référence à des exemples exemplaires, c'est égal ou est de l'ordre de analogie. Donc maintenant, je vais montrer comment Kuhn, enfin, je vais répéter ce qu'a dit Kuhn sur les exemples exemplaires. Donc Kuhn se pose la question dans un texte qui s'appelle En repensant au paradigme, en français, Second Thoughts on Paradigms, en anglais, qui est un texte de 1974, qui a été traduit bien plus tard en français. Pour Kuhn, donc, il y a deux sens de paradigme. Il y a le premier sens, matrice disciplinaire. Et le second sens, qui est pour lui beaucoup plus important, c'est le sens de exemple exemplaire en français, au sens 2 de paradigme. C'est le sens 2 de paradigme. Il se pose la question, comment est-ce que les scientifiques relient des expressions symboliques à la nature? Et dans le livre « La structure des révolutions scientifiques », il cherche des règles qui puissent permettre, ce qu'il appelle des règles de correspondance, qui puissent permettre le passage de la nature aux généralisations symboliques, ce qu'il appelle les généralisations symboliques. Il n'en trouve pas, et il dit « c'est pas par des règles de correspondance qu'on comprend le monde, mais en travaillant sur des exemples exemplaires ». Donc ça, c'est la thèse centrale de Kuhn, et qu'il a reprise systématiquement jusqu'à la fin de sa vie. Donc, comme je le dis toujours, Kuhn, c'est un très grand didacticien. Et voilà, en gros, j'ai fait une citation longue. Là, donc là, c'est la partie de l'exposé, entraînement à la lecture rapide. Donc, il y a toute une série de définitions que je vais donner les unes après les autres. Donc, exemplaire, solution de problèmes concrets, accepté par le groupe comme paradigmatique, au sens tout à fait usuel du terme. Le sens usuel du terme, il renvoie à Aristote. Un paradigme, c'est une façon connue de traiter un problème. Alors, Kuhn après nous dit, un phénomène des réacteurs nous est donné par un phénomène courant chez les étudiants en sciences et les historiens des sciences, ou les épistémologues des sciences. Kuhn établit toujours systématiquement le parallèle. C'est en ce sens que tel Brousseau, par exemple, il a une déclaration non dite qui est la science par les scientifiques et la science par les étudiants, ça marche pareil. De ce point de vue-là, évidemment. Alors vous voyez ce qu'il décrit les difficultés des étudiants, et puis il dit « À l'ordinaire, ces difficultés se résolvent de la même manière. L'étudiant découvre un moyen de voir le problème comme un problème qu'il a déjà rencontré. Dès que cette similitude ou cette analogie est saisie, il ne reste que des difficultés de manipulation. Le même schéma apparaît à l'évidence dans l'histoire des sciences. Les scientifiques modélisent la solution d'un problème par celle d'un autre, en ne recouvrant souvent qu'un minimum de généralisation symbolique. » Et dans le livre et dans le texte, en repensant au paradigme, il donne une série d'exemples tirés de l'histoire des sciences qu'on peut lire avec profit, me semble-t-il. Alors, il continue. « Je veux simplement suggérer que la capacité acquise de voir des ressemblances, entre des problèmes apparemment disparates, joue dans les sciences une grande part du rôle ordinairement attribué au rôle de correspondance. » Donc c'est toujours, en sciences cognitives, il y a eu toute une série d'articles qui continuent encore maintenant sur la distinction entre « rules » et « similarity ». Donc c'est cette question. Et il nous dit là, c'est cette faculté de reconnaître des ressemblances autorisées par le groupe qu'acquièrent les étudiants en résolvant des problèmes ou en travaillant dans un laboratoire bien conçu. Ces problèmes concrets, leurs solutions, forment ce que j'ai appelé plus haut des exemplaires, etc. Exemple étalon d'une communauté. Et le cœur de la compréhension chez Kuhn, c'est des relations de similarité apprises, c'est-à-dire de perception acquise de l'analogie. Là, je cite encore une fois Kuhn. Et une dernière citation. Donc ça, c'est tout à fait à la fin de l'article. Il nous dit, revenons-en pour finir au terme paradigme. Il apparaît dans la structure des révolutions scientifiques parce que moi, historien auteur de ce livre, je n'ai pu, en examinant les membres d'une communauté scientifique, dégager suffisamment de règles communes pour rendre compte de la conduite sans problème de la recherche par ce groupe. Vous voyez l'intention de Kuhn, c'est toujours trouver des règles dans la plus pure tradition cognitiviste de son époque qui expliquent comment on fait de la science. Il n'en trouve pas à la place, il met des exemples exemplaires. Donc, c'est ce qu'il dit tout à fait en bas. Les exemples communs peuvent servir aux fonctions cognitives communément attribuées aux règles communes. Quand c'est le cas, la connaissance se développe d'une autre manière qu'elle le fait lorsqu'elle est gouvernée par des règles. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est l'idée, c'est de généraliser cette conception de Kuhn aux sciences de la culture et donc de dire que finalement, ça serait bien que les sciences de la culture fonctionnent sur des emblèmes. C'est-à-dire des exemples exemplaires. Juste un petit point, là, je fais une différence entre emblème et exemple exemplaire. Évidemment, il n'est pas le fait qu'un exemple exemplaire devienne un exemple exemplaire, c'est pas parce que moi ou n'importe qui décide que ça va être un exemple exemplaire. Un exemple exemplaire, c'est le fruit, comme le montre Kuhn, d'une longue maturation dans une communauté scientifique. Donc mon argument, c'est de dire, on peut, dans nos activités de recherche, créer des emblèmes qui sont appelés, peut-être, à jouer un rôle, en tous les cas, similaire à celui des exemples exemplaires. C'est pour ça que souvent je parlerai d'emblèmes ou d'exemples emblématiques. Dans l'idée, un exemple emblématique, c'est un exemple destiné à devenir exemple exemplaire. Destiné ou pas, mais enfin, qui a cette... En tous les cas, c'est cette ontologie-là. Alors, Donc on aurait une épistémologie, quand on fait de la recherche dans les sciences de la culture, de l'analogie paradigmatique. On progresse dans la connaissance en instituant des exemples emblématiques qu'on fait travailler. En didactique des mathématiques, par exemple, mais au-delà, pour moi ce sont des exemples qui transcendent la didactique des mathématiques, je cite ici trois exemples qui pour moi sont des exemples exemplaires. C'est-à-dire qui, pour une communauté, peuvent être constitués comme des moyens de comprendre comment on travaille un problème. En l'occurrence, là, par exemple, comment on travaille le problème des relations entre le professeur et les élèves. Ensuite, évidemment, ils deviennent des instruments pour analyser la pratique. Bon, l'effet Topaze, par exemple, les moutons de Topaze, l'âge du capitaine, par lequel on comprend que ce que signifie le contrat didactique, en constatant justement sa rupture, ou l'agrandissement du tangram, une pièce d'un puzzle agrandi de façon telle qu'une dimension qui fait 4 dans le modèle fasse 7 dans la reproduction. Ça, pour moi, ce sont des exemples exemplaires. Et je pense que c'est une façon tout à fait intéressante, pertinente, qui est en lien direct avec la conception de l'analogie Hofstadter-Sander, qu'on peut développer. Alors l'idée, c'est qu'on retrouve là une vieille idée, enfin pas si vieille que ça, mais de Marx, qu'il avait plus ou moins reprise de Hegel, qui est l'ascension de l'abstrait au concret. C'est-à-dire, souvent on dit, ah oui, les élèves, il faut les amener à l'abstraction. Alors, probablement. Mais je pense que ce qui est encore beaucoup plus important, c'est de faire ce lien, cet aller-retour permanent entre l'abstrait et le concret. L'idée de l'ascension de l'abstrait au concret, c'est qu'on a une formule abstraite, on a un analogone, par exemple, on a l'effet Topaze. Les moutons allés dans le pré, on dit les moutons pour faire comprendre aux élèves de façon indue et inappropriée qu'il faut mettre un S à mouton. Ça, c'est une formule abstraite, ça. D'une certaine manière, elle a une certaine abstraction. Et ensuite, cette formule plongée dans de nouvelles situations, elle va gagner de plus en plus de pertinence, elle va s'enrichir en quelque sorte de cette situation. Donc le jeu n'est pas du tout, et pas seulement d'abstraire, mais il est de plonger des unités abstraites dans de plus en plus de concrets différents qui vont lui donner une épaisseur à cette formule abstraite de plus en plus importante. Et donc finalement, l'abstraction, elle va être utilisée dans une perspective de réduction en particulier. Il y a l'épistémologue de la physique Nancy Cartwright a écrit un livre tout à fait passionnant sur les rapports qui existent entre fables et modèle. Hein. Pour elle, il y a le même rapport entre la morale d'une fable et le corps d'une fable. Pensez à une fable de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure, et l'histoire de la fable. Il y a donc le même rapport entre la morale de la fable et le corps de la fable qu'entre une théorie et un modèle. Hein. Et donc, il y a l'idée que, en quelque sorte, le modèle, c'est l'idée de Cartwright, hein, le modèle concrétise, réduit au particulier, pour une part, une théorie plus générale. Pour finir sur ces idées, il y a donc l'idée de généralisation. Qu'est-ce que c'est que la généralisation dans cette perspective? C'est, alors je cite l'anthropologue, je veux bien couper le wifi, mais tu vois, après quand je fais ça, il revient là. Bon. On aura une petite interruption. C'est l'anthropologue Jean Bazin donc, qui dit... la généralisation, c'est comme transformation de l'altérité, de son étrangeté apparente, en différence connue, c'est-à-dire maîtrisable. C'est un peu difficile à absorber comme ça, mais en gros, l'idée, c'est, on en discutait dans d'autres moments, c'est l'idée que dans l'être humain, l'espèce humaine est une, et qu'il n'y a pas fondamentalement... C'est une sorte de monisme épistémologique, pour reprendre la discussion qu'on a eue récemment, qui fait que, au lieu de voir de l'incommensurabilité, terme kuhnien par excellence, entre les choses, on arrive à dire que, sous un certain point de vue, je reprends Bazin, un rite bambara et une messe catholique, c'est la même chose. C'est ça qu'il appelle, c'est son idée. Bon. Bazin est un auteur qui gagne à être lu, si ça vous intéresse. Alors, juste un premier contre-exemple, je vais aller vite parce que ça passe vite. Un premier contre-exemple, c'est le cas de la psychologie expérimentale. Un des aspects très intéressants du travail de Sander et Hofstadter, vous avez remarqué que j'ai fait un petit changement d'ordre des noms, c'est que c'est une machine, de mon point de vue, une machine de guerre, très perfectionné contre la psychologie expérimentale ou contre les faiblesses, en tous les cas, je me reprends contre les faiblesses de la psychologie expérimentale. Les faiblesses de la psychologie expérimentale, c'est le fait que, alors j'aurais pas le temps de passer l'article, hein, je voulais parler, mais c'est le fait qu'il y a eu des articles récents dans Science et Nature et so on, des grandes revues de sciences, pour dire que finalement, la méthode, alors au départ, la psychologie expérimentale a des sérieux problèmes, en particulier parce que, l'idée de réplication sur laquelle elle repose n'est quasiment jamais atteinte. Alors on peut se dire, oui, mais ça c'est parce que c'est des psychologues, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris, c'est bien connu, c'est pas des vrais scientifiques, mais sauf qu'après, l'année d'après, ils disent la même chose, mais cette fois des recherches en biologie. Donc il y a, pour moi, vraiment une vraie question. J'aurais pas le temps de trop détailler parce qu'il faudrait un exposé pour ça. Mais l'exemple de l'étude d'Emmanuel de la relation source-cible, classiquement en psychologie cognitive, fournit un très bon exemple de ça. L'idée, en fait, c'est de dire que si on cherche à comprendre comment les gens agissent intelligemment, il faut qu'on réintroduise, enfin qu'on introduise, qu'on fasse plus, qu'on mette au cœur de l'histoire la culture. Et si on ne met pas au cœur de l'histoire la culture, on ne comprend pas l'être humain. La psychologie expérimentale, de mon point de vue, l'expérimentation, de mon point de vue, a très souvent comme défaut de construire une désécologisation, c'est pas très beau, de la compréhension du monde. Alors évidemment, il y a des psychologies avec culture. Hein, il y a des psychologies, il y a souvent sans culture. Par exemple, celle de Jérôme Brunner, qui est décédé, l'âge à prière, le 5 juin dernier, à l'âge de 100 ans. Donc ça, comme quoi la culture, ça concerne. Bon, c'est facile à faire. Alors, une théorie de la culture, donc, de mon point de vue. Donc maintenant, c'est un point sur les théories, c'est-à-dire que quelques conséquences sur la recherche d'une vision de l'épistémologie qui est fondée sur la mise en rapport d'exemples exemplaires. Premièrement, l'idée d'imitation créatrice. La culture, ça peut être vu, et j'écris là, comme un maillage de jeux de langage, forme de vie, qu'on apprend par imitation créatrice. Donc je pense que un des problèmes de la forme scolaire classique, c'est qu'elle n'a pas saisi que, je passe à la puce suivante, que la transmission est fondamentalement ancrée dans l'imitation, et comme le dit le philosophe Sloterdijk, dans l'imitation de l'inimitable. La culture est fondée sur l'imitation de l'imitable, et c'est pas parce que c'est inimitable qu'on va pas s'efforcer de l'imiter. Quand un chorégraphe montre une chorégraphie à un danseur, le danseur sait très bien que ce qu'il montre, c'est pas à imiter tel quel. Mais si l'autre le montre, c'est bien qu'il le montre bien. Si le chorégraphe le montre, il le montre bien pour une raison. Donc on est dans un fonctionnement d'imitation de l'inimitable. Quand on dirige un doctorant, on est dans un fonctionnement d'imitation de l'inimitable. Donc ça, c'est la question de l'imitation. Qu'à mon avis, à partir du moment où on accepte une vision de l'analogie ouverte comme celle que nous proposent les auteurs, on est dans une... il faut donner du sens, il faut donner de l'importance à cette idée d'imitation créatrice. Deuxièmement, le modèle du jeu. Le modèle du jeu. Donc, l'idée que entrer dans la culture, c'est comprendre une action, c'est comprendre le jeu qui est joué dans les institutions qu'on fréquente, c'est Bazin qui explique ça. Et donc, je cite Bazin parce qu'il travaille sur le fait de comprendre des personnes qui, a priori, sont assez éloignées de lui en tant qu'anthropologue. Et on comprend un jeu social, donc, ça c'est mon hypothèse, par imitation créatrice, en agissant avec ce qu'on imite, en imitant les emblèmes de la pratique qu'on cherche à s'approprier, et en apprenant peu à peu les inférences liées à ces emblèmes. C'est-à-dire que, vous voyez, si on apprend la didactique en apprenant l'effet topaz ou l'agrandissement du tangramme ou l'âge du capitaine, on n'apprend pas que des exemples exemplaires, on apprend aussi une culture et on apprend aussi une manière d'inférer. On apprend une logique qu'on va projeter à tort ou à raison sur la pratique. Alors un deuxième point qui me semble très intéressant du point de vue de ce que raconte Hofstadter et Sander du point de vue théorique, c'est celui-ci. C'est l'idée que depuis Rousseau, on a en didactique le doublé contrat-milieu. Et quand on regarde bien la proposition que Rousseau fait de la notion de contrat, il dit, dans sa célèbre définition de 1980, il dit c'est les actions répétées du maître et des élèves que l'élève prend comme règle de décodage de l'activité. Et en fait, ça, en langage Hofstadter et Sander, ça peut très bien s'appeler le déjà-là, le système de situation antérieure qui permet aux gens d'agir. L'intérêt, c'est que ce système de situation antérieure, il vient, ce système de situation préalable, c'est préalable, oui, il vient de l'action conjointe antérieure du professeur et des élèves. Et la notion de contrat donne une chair particulière, donne une orientation particulière à ce qu'est ce jeu entre situation antérieure et situation postérieure, actuelle, que donne Hofstadter et Sander. Et donc, dans cette perspective-là, le milieu, c'est justement, dans la dialectique contrat-milieu, le milieu, c'est justement ce système de cet ensemble de formes symboliques dont on ne sait pas trop quoi faire et qu'on va reconstruire ensuite comme un tout unifié, précisément grâce aux éléments du contrat, c'est-à-dire grâce aux éléments du déjà-là, qui vont nous permettre d'entrer dans ce problème que le milieu pose. Donc pour moi, il y a vraiment une dans la didactique, dans ce qu'on regarde, par exemple dans les exemples qu'on regardait hier, où on voit comment des élèves peuvent se fourvoyer ou au contraire réussir grâce à des analogies pertinentes ou au contraire non pertinentes, on est en permanence dans cette relation entre le déjà-là et le à comprendre. Le déjà-là, ça serait le contrat, le à comprendre, ça serait le milieu. Et on est en permanence dans cette idée de, finalement, j'aborde la nouvelle situation avec des souvenirs de situations précédentes qui s'y rattachent, et à ceci pour le meilleur comme pour le pire. Alors, un autre point qui est, me semble aussi intéressant, c'est l'idée le rôle des systèmes symboliques et du langage. C'est-à-dire, je pense que, et ça peut-être, c'est quelque chose qui pourrait être davantage plus développé dans une perspective à la Hofstadter et Sander, c'est le fait que les relations entre les systèmes symboliques, je pense qu'on peut les voir comme incluses au sein d'un travail d'analogie, et que le rôle du langage, ça consiste là à mettre en relation les systèmes symboliques entre eux. Je pense qu'il y a une série de travaux, notamment en épistémologie des sciences, qui montrent bien comment le langage joue un rôle crucial finalement pour expliciter les relations d'analogie ou de non-analogie, les différences et les similitudes qui existent entre divers systèmes symboliques. Donc je pense qu'il y a vraiment une théorie du langage analogique, c'est-à-dire que le livre d'Hofstadter et Sander est gros d'une théorie du langage qui serait une théorie des jeux de langage, forme de vie. C'est-à-dire l'idée que le langage est ce qu'il est parce qu'il est vécu dans des formes de vie différentes. On ne comprend pas, pour reprendre un exemple de Sander qui m'a été soufflé par Louis Lefebvre, d'Hofstadter et Sander, si on considère que le mot verre, que le verre, ça désigne quelque chose qui sert à boire, ou ça désigne quelque chose qui sert à emprisonner des mouches sur une table, évidemment, on ne va pas utiliser le mot verre de la même façon. Et c'est l'insertion du mot dans une forme de vie qui construit un jeu de langage. Et donc, si on veut comprendre le langage, il faut comprendre la relation jeu de langage, forme de vie. Donc, contre-exemple, il y a des théories qui sont, de mon point de vue, non suffisamment garfinkeliennes. Alors, c'était juste pour les amateurs de Garfinkel. Garfinkel, c'est celui qui a créé l'idée d'ennométhode. En gros, c'est une idée bourdieusienne aussi, quelque part. Il faut que les théories soient capables de rendre compte du sens de l'action pour l'acteur. Par exemple, hier, en ethno-mathématiques, on pouvait voir que les formalisations mathématiques du travail des autochtones, si j'ose dire, en fait, elles construisaient une logique de l'acteur, mais ce n'était pas la logique du sens de l'action pour l'acteur. C'est ce que j'appelle des théories suffisamment, qui rendent suffisamment compte du sens de l'action pour l'acteur. Et puis il y aurait la nécessité de théories suffisamment ingoldiennes. Ingold, Tim Ingold, c'est quelqu'un qui met l'accent sur le fait que les gens agissent en situation avec de l'intelligence, avec des skills. Je reviendrai tout à la fin sur skills. Et que c'est ces skills dont il faut rendre compte. D'une certaine manière. Voilà pourquoi je fais ces contre-exemples. Alors, les méthodes. Dans une telle épistémologie, d'ailleurs, vous voyez, si on a une épistémologie qui dit on comprend les choses avec des exemples exemplaires, hein, en tous les cas, avec des exemples emblématiques, et qu'on dit la recherche doit donc développer des théories, des notions modèles, des formules abstraites qui reposent sur des exemples emblématiques. Alors, évidemment, on va se dire comment on décrit des systèmes, des exemples emblématiques. Alors, nous avons inventé un sigle, ch'ti. Alors, pour les gens qui ont une culture nordiste, il y a une manière facile de se rappeler le fonctionnement du ch'ti, c'est le ch'ti, ça nous dit quoi ? Alors, culture nordiste et ou cinématographique. L'idée des ch'tis, système hybride texte, image, son. Donc, l'idée, c'est de se dire, on va créer des exemples emblématiques et on va chercher à augmenter des exemples emblématiques, ça donne à voir et à comprendre. Ça, c'est une autre idée, qui va de soi, d'une certaine manière. L'effet topaz, ça donne à voir et à comprendre. Si en plus on en avait des filmés, des différents, un assortiment d'effets topaz, on comprendrait beaucoup mieux l'enseignement. Ça, c'est une hypothèse que je fais. Et donc, il y a des dispositifs d'augmentation du dialogue, du donné à voir à comprendre, et d'augmentation du dialogue. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit teaser sur les ch'tis. Je ne sais pas trop comment je vais arriver à te le trouver, mais il va certainement exister quelque part. Voilà. En principe, ça devrait aller. Voilà, ça c'est le ch'ti en 60 secondes.
Sauf qu'il faut le placer sur l'autre.
D'accord.
Il faut prendre ça là, puis on le déplace. Yup. Là maintenant, après, il faut se retourner.
Ah oui, c'est ça.
On n'a pas fait là.
Ah oui, mais là, il n'y a pas le son. Je peux pas mettre le son, là. Là, il faudrait pouvoir mettre le son, tu vois. Ça aiderait. Non, mais je peux pas mettre le son est à zéro sur mon ordinateur.
Ah, voilà.
Donc, comment est-ce que je fais? Il faudrait que je mette le son sur mon ordinateur, mais là, je l'ai mis à zéro, donc on n'entend pas. Ben, vous pouvez regarder quand même sans le son, ça. Ah, ouais, c'est bien.
Mais on n'entend toujours pas.
Un certain nombre d'effets permet de focaliser l'attention et de fournir plus d'indices et de clés de lecture que ne l'aurait permis la vidéo.
Ma souris, attends. Je vais essayer de la rattraper. Je suis en train de faire une gymnastique digitale. Voilà.
La vidéo générée est au format Full HD. Un timecode permet un repérage précis et facile.
Bon, juste une minute, là, ça c'est un système hybride de texte-image qui est fondé sur une recherche qu'on a faite sur l'enseignement des fables de La Fontaine à l'école élémentaire. Et en particulier sur l'enseignement d'une fable, enfin des fables, et d'une fable qui est le loup et l'agneau. D'accord ? Donc là, les élèves, ceux dont je vais montrer l'exemple, là, c'est des élèves qui travaillent sur le loup et l'agneau. Et donc là, ce que nous dit le collègue qui parle, là, c'est que d'abord, il faut une vidéo qui soit... vous avez vu ce qu'il dit.
Timecode est notamment utile lors des sessions de travail asynchrone. Le synopsis est conçu comme un menu et chaque étape est cliquable.
Là, vous voyez, il y a le synopsis et en face, il y a le...
façon assez classique, il y a le transcript qui permet de regarder, de comprendre ce qui se passe.
Un certain nombre d'effets permet de focaliser l'attention.
Donc, vous voyez, en haut, là, les élèves, par groupe, ont fabriqué chaque groupe une paraphrase. Notre idée, c'est que pour comprendre un texte, il faut le paraphraser. Donc, ils paraphrasent les fables de La Fontaine. Là, le départ des fables de La Fontaine, un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure chez La Fontaine. Ça devient, en haut à gauche, un agneau buvait dans la rivière qui bougeait. Deuxième groupe, un agneau buvait dans le courant d'une rivière. Troisième groupe, un agneau calmait sa soif dans le courant d'une rivière, etc. Et donc là, par exemple, on voit en même temps ce qui se passe quand le professeur travaille au tableau, et on voit en même temps, parce qu'il y a plusieurs caméras, là, des élèves qui sont en train, justement, de travailler sur les mises en analogie, pour le coup, des différentes choses qui sont racontées sur le... par chaque groupe.
Et de fournir plus d'indices et de clés de lecture que n'aurait permis la vidéo.
Ce qu'on appelle l'ostension dynamique, vous voyez, c'est pour essayer d'arriver à voir qui parle. Bon, normalement, la vidéo peut être sur un grand écran, mais d'essayer d'avoir qui parle, ce qui n'est pas forcément évident dans une classe. Donc là, il y a des effets de loupe pour voir justement l'élève en train d'écrire quelque chose, enfin, de surligner quelque chose sur un tableau numérique. Il y a l'idée aussi de mettre donner à voir et à comprendre des gestes particuliers du professeur qui joue un rôle, là, par exemple, dans la construction du sens dans la séance.
L'accès aux ressources, au moment où celles-ci sont mobilisées par le professeur, nous paraît être un des atouts majeurs du système.
Voilà, après la phrase de publicité pour le... comment je vais faire Je solliciterai votre... Escape. Donc je vais retrouver mon PowerPoint, là.
Oui, ici, voilà.
Ok. Donc l'idée, ça serait de... Vous voyez, ce que j'ai montré là, de façon maladroite et incomplète, et puis, alors là, j'ai plus mon temps, parce qu'évidemment, le temps s'est remis à zéro. Tu me dis combien de temps il me reste
Je veux que quelqu'un continue.
Oui, l'idée, on est parti de l'idée analogique fondamentale, c'est que le sens, c'est toute mise en rapport de situation... de toute mise en rapport entre une situation antérieure et une situation présente. Donc l'idée, là, c'est d'essayer de comprendre comment on peut mettre en rapport une situation antérieure et une situation présente. Alors, quelques contre-exemples, mais là, je vais aller vite, sinon ça... Enfin, je vais aller plus ou moins vite selon le temps qui me reste. Mais il y a vraiment... Le philosophe américain Brandom a décrit une distinction tout à fait intéressante entre étiquetage et description, hein, labeling, describing. En fait, son idée, c'est que dans beaucoup de recherches en sciences de l'homme et de la société, on est dans une perspective de d'étiqueter les choses plutôt que de les décrire. Et donc, l'idée, ça serait, c'est ce que j'ai écrit ici, l'idée, ça serait que dans les sciences de la culture, on n'a pas trouvé... peut-être encore des formes suffisamment convaincantes pour décrire la réalité. Et que des exemples emblématiques, qui sont des rejetons des exemples exemplaires de Kuhn, pourraient être ces façons de décrire la réalité. Et donc il y a bien l'idée de... Pour moi, l'exemple emblématique, c'est ce que j'écris en bas, c'est un moyen terme entre typologie insignifiante. Je pense que le risque pour... la recherche dans sciences humaines et sociales, c'est d'arriver à des typologies insignifiantes. On crée des catégories, on crée des catégories justement au sens restreint, telles que les critiques of Satter et Sander. On met des choses dans les catégories, mais en fait, on ne joue pas sur les rapports entre catégories type et token, si vous voulez, et entre les catégories et les entités qui figurent dans les catégories. Au contraire, je crois qu'il faut ça, c'est un problème. Et l'autre problème, c'est une description ultra complexe de la chose, telle qu'à la fin, la carte est aussi grande que le territoire. C'est la carte de Borges. Donc il y a une espèce de tension, de moyen terme à trouver entre les deux. L'argumentation, c'est celle-ci. Alors, quelles conséquences sur la recherche concrète ? Quelles conséquences sur la recherche concrète ? Alors, la recherche concrète, les conséquences, ça veut dire que la recherche peut consister à bâtir des ingénieries coopératives. Alors, je ne rentre pas dans l'histoire des ingénieries coopératives, mais surtout sur un de leurs aspects. En fait, elle repose, ces ingénieries, sur l'idée de créer, par exemple, entre professeurs et chercheurs et formateurs et qui en voudra, les gens qui travaillent ensemble, ça repose sur la construction conjointe d'une référence commune. Vous voyez, par exemple, quand on regarde des choses comme celles que je vous ai montrées, toutes proportions gardées et les imperfections mises à part, le ch'ti de... on arrive petit à petit dans un collectif à construire des appréciations communes de ce que peut être que enseigner la fable de La Fontaine. Alors, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Hein. Ça peut être aussi enseigner l'addition au cours préparatoire. N'importe quoi d'autre. Donc l'idée, c'est que la production d'exemples emblématiques, quand on en fait l'étude, ça permet à la fois de comprendre la pratique et de la transformer. Et ce qui veut dire aussi que ça donne au travail de recherche une double fonction de comprendre la pratique et de la transformer en même temps. Par exemple, dans les sciences de la nature, le fait que la compréhension de la pratique et la transformation de la pratique s'alimentent l'une l'autre, c'est un truisme, c'est une évidence. Et dans les sciences de l'homme et de la société, pour des raisons complexes, on s'imaginerait qu'il faudrait séparer radicalement la compréhension de la transformation. Je crois que c'est une erreur majeure et qu'il faut transformer pour comprendre, etc. Donc l'idée, ça serait que les ch'tis dont je parle là, enfin les exemples emblématiques de façon plus générale, c'est des espèces de ferments du dialogue d'ingénierie. Alors, je vais vous donner, si possible, un autre exemple. Enfin, un exemple. Pour expliquer le sens de ce que je voudrais vous montrer. Alors, je ne retrouve plus mon exemple. Vous auriez une idée pourquoi Firefox ne veut pas fonctionner là ?
Tu vas le chercher.
Il est peut-être ailleurs, oui, c'est ça.
C'est ça, il est sur l'autre page.
Et comment on fait ?
C'est ça, à droite, là, ici.
Ah oui, il faut aller à droite. Ah, c'est extraordinaire, ça.
Pour
oui, là, je suis... Alors là, je vais juste vous montrer un épisode qui dure 3 minutes... Et ensuite, si tout va bien, et ensuite expliquer. S'il veut bien venir.
C'est sur Internet ou c'est local ?
Non, c'est local. Donc apparemment, tout se passe comme si Firefox avait planté.
Le casser et puis le réinstaller.
Le
Le relancer.
L'ordinateur ?
Non, Firefox.
Mais tu vois, quand je vais dessus, il est pas. Ah oui, d'accord. T'appuies sur quoi ?
Sur les touches là. C'est très.
Contrôle Q.
À peu près. Ah. Oui. Qu'est-ce qu'il me fait là ?
Enseigner, c'est montrer, oui.
Là, il devrait arriver. Oh, hop, le voilà.
Ok, merci.
Donc, il y en a un ici et l'autre.
Bon, on va voir s'il veut bien venir. Apparemment, ça doit être le. Ça doit être le fait d'ouvrir qui le fait planter, quoi. Je vais vous raconter un exemple exemplaire. C'est, enfin, un morceau d'exemple exemplaire.
Ce qu'on appelle un incident de
culture. Oui, oui. Voilà, donc je vous raconte en deux mots. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est un extrait de discussion. Voilà, entre dans la classe. Donc voilà ce qui se passe. Alors vous imaginez qu'il y a une vidéo avec la classe, que vous avez vue tout à l'heure, et puis le transcript qui défile. Moi, je vous explique ce que dit le transcript. Le transcript, je le résume, le transcript. Et d'une certaine manière, je le paraphrase. Ce qui se passe, c'est que des élèves ont paraphrasé le début... un agneau se désaltérer dans le courant d'une onde pure par calmer sa soif. Et le professeur, il entend ça, et puis se calmer sa soif, ça, il veut d'une certaine manière, pour les raisons pour lesquelles il veut le mettre à l'écart, je vais m'en expliquer tout à l'heure, il veut le mettre en écart, il veut mettre en écart cette signification-là. Alors, il arrive, tout arrive. Il faut passer de l'autre côté, mais j'arrive pas à passer de l'autre côté. Comment ? Non, ça y est, c'est bon, c'est bon. Quoi ? Voilà, donc je vais continuer à mon histoire. Donc j'en étais au fait que le professeur essaie de d'écarter ce discours, cette paraphrase-là. Et pour écarter cette paraphrase-là, alors il demande aux élèves, mais alors calmez sa soif, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez en général ? Alors les élèves disent, alors il y en a un qui leur dit par exemple aux élèves, qu'est-ce que vous faites quand vous avez soif ? Ben, on boit, et alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors il y a un élève qui répond, c'est un truc typique de dialogue d'élèves, il dit ça fait du bien. Évidemment le professeur, c'est pas ce qu'il attend. Donc la discussion se poursuit comme ça, et on comprend que finalement l'idée que le professeur veut mettre en évidence, c'est que, un, c'est ce que j'ai mis en dessous, hein, c'est que il y a pour lui, d'une certaine manière, des finalités conflictuelles dans le jeu de l'ingénierie. En plus, c'est la première fois qu'il la met en œuvre. Et les finalités conflictuelles sont les suivantes. L'idée d'une paraphrase, c'est qu'on paraphrase avec ses propres mots. pour comprendre. Donc, calmer sa soif, on comprend bien que ce n'est pas les propres mots de l'élève. Deux, si ce n'est pas les propres mots de l'élève, d'où ça vient? Ça vient d'une définition du dictionnaire que les élèves ont trouvée, parce qu'ils ont le droit d'utiliser la définition du dictionnaire. Mais ça retrouve un deuxième problème dans l'économie de l'ingénierie, c'est que on a bien vu que très souvent, les élèves ont tendance à utiliser les définitions du dictionnaire dans leur travail en littérature, à les utiliser telles quelles et sans pertinence. Parce qu'évidemment, si on s'amuse à prendre la définition du dictionnaire, d'ailleurs quelqu'un s'était amusé à le faire, de tous les mots qu'on utilise et qu'on fait un remplacement, le texte n'a pas de sens. Troisièmement, il y a cette idée que le professeur, en fait, pour lui, la paraphrase, c'est quelque chose qui doit permettre de comprendre à l'élève, permettre à l'élève de comprendre, mais certainement pas, par exemple, de le mettre en position d'écrire à son tour des fables, c'est-à-dire de mettre en position l'élève de comprendre la force poétique de la fable. Donc c'est ce que... il y a un dernier point, c'est la puce d'après, c'est l'idée très très générale qui alimente encore le travail du professeur, là, c'est la question de la part des responsabilités prises entre le professeur et l'élève, c'est-à-dire que finalement, l'idée qui sous-tend le travail du professeur, c'est que c'est toujours mieux quand ça vient de l'élève que lorsque ça vient d'une autre entité, par exemple d'un dictionnaire. Donc tout ça amène finalement, dans l'ingénierie qui est construite, là, l'exemple il est étudié avec le ch'ti que je n'ai pas pu vous montrer pour les raisons que vous avez vues, et ça amène à construire une sorte d'exemple emblématique, qui est un exemple emblématique de ce que j'ai écrit là, hein. C'est-à-dire que dans notre collectif, calmer sa soif, c'est relativement récent, mais ça vient finalement pour créer une sorte d'emblème de... le fait qu'on peut créer un exemple emblématique de l'incertitude dont je vous ai parlé, de la topogénèse du professeur et de l'élève, et ça amène finalement à cette finalité commune suivante, c'est que quand on enseigne une fable, on a la nécessité de faire comprendre la fable, on a la nécessité... de faire comprendre la fable, c'est-à-dire de la référer à des expériences personnelles qui peuvent être analogues à celles de la fable. Mais on a aussi la nécessité de comprendre la fable de manière telle qu'on pourrait la réécrire à sa manière. Et ça amène aussi à comprendre, cet exemple amène à comprendre le collectif qui travaille autour de la fable, la nécessité de rendre compte du langage poétique de la fable. Et calmer sa soif, par exemple, ça a une densité poétique en même temps qu'une densité sémantique qui est bien supérieure à il buvait. Donc tout ça fonctionne comme un exemple emblématique à faire travailler dans le collectif dont je vous parle. Des contre-exemples de ça pourraient être en fait des conceptions de la recherche que je trouve problématiques et qu'il faudrait dépasser à mon avis. C'est l'idée qu'on devrait faire de la recherche et puis ensuite assurer le transfert des résultats de la recherche au peuple qui nous attend avec de grandes espérances, comme disait l'autre. De la même manière, l'idée de recherche appliquée. Je crois que, en didactique en particulier, je pense que nous devons aller résolument vers le fait qu'il n'y a pas de recherche fondamentale et de recherche appliquée, ou que plutôt la recherche est fondamentale, comme l'a dit Yves à une époque, c'est de la recherche fondamentale socialement finalisée, et je pense qu'il faut aller résolument dans cette épistémologie. Et donc l'exemple emblématique, c'est un élément central d'une théorie de la pratique. Le livre de Hofstadter et Sander est intéressant parce qu'il nous donne des éléments pour construire une meilleure théorie de la pratique. Donc je termine tout à fait. Je peux prendre deux minutes ? En fait, c'est juste sur l'intelligence. J'ai été frappé que j'ai écouté, on a travaillé récemment avec Tim Ingold, l'anthropologue britannique, on avait invité longuement au CREAD. Et il insistait beaucoup, comme je l'ai déjà dit, sur cette idée de pour la compréhension. Comprendre le monde, c'est comprendre les skills dont font preuve les gens. Alors j'ai regardé, je l'avais déjà fait, mais je l'ai fait une seconde fois, j'ai regardé l'étymologie du mot skill en anglais, et en fait, c'est la même racine indo-européenne qui donne scalpel. Donc l'idée du skill, c'est l'idée d'être capable de découper les choses, de découper le monde selon les lignes de force du monde. Et il y a le boucher de Platon, qui je crois citait Emmanuel dans son exposé. Platon dit dans le Phèdre que effectivement le bon boucher, c'est celui qui découpe la viande selon les lignes, etc. Et alors, bizarrerie, c'est que Chuang Tzu dit la même chose. Il y a le boucher, je crois que ça s'appelle Ming, enfin il y a un nom chinois, ce qui n'est pas vraiment très étonnant. Et le boucher de Chuang Tzu a un couteau qui est le même depuis 30 ans. Et l'empereur vient le voir et lui dit « Mais comment tu fais pour avoir le même couteau depuis 30 ans ?» Et le boucher de Chuang Tzu dit à l'empereur « Pas de problème. Moi, quand je découpe la viande, je vais exactement là où je dois aller, là où le couteau doit aller, et donc le couteau ne s'use jamais. Et ce couteau durera à l'éternité. Hein, » Donc le boucher de Chuang Tzu, comme le boucher de Platon, sont des gens qui savent lire les lignes du monde et savent aller précisément où il faut pour comprendre le monde. Donc l'idée, c'est cette idée de c'est cette conception de l'analogie qu'on pourrait renouveler avec la lecture du livre et les réflexions qu'on peut construire. Il y a vraiment une compréhension de l'intelligence. Et la dernière puce me permet de terminer. Je pense que si on est dans une vision de la recherche telle celle que je viens de décrire, là, de la recherche en sciences de l'homme et de la société, on change d'objet. Vous voyez, un objet de la recherche en didactique, mais de la recherche dans les sciences de la culture en général, ça peut être comment est-ce qu'on traite calmer sa soif quand on enseigne une fable de La Fontaine. Et comment on traite calmer sa soif quand on enseigne une fable de La Fontaine, c'est pas du tout de la recherche appliquée, c'est aussi fondamental que n'importe quelle autre recherche.